Théologie en liberté. Au micro, Joël Baumann
et Michel Bertrand.
Et Michel Bertrand, professeur de théologie, pasteur. Et nous sommes ensemble pour une série d'émissions, 4 émissions exactement, sur un thème qui nous paraît important à nous. C'est le rapport entre le religieux et le politique. De fait, les religions perdent leur influence dans les sociétés sécularisées, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit, et ce qui semble, en Occident en particulier, on a pu penser que la question de leur lien avec le politique ne se posait plus.
Oui, c'est vrai, vous avez raison, sauf que la sécularisation et la laïcisation s'accompagnent paradoxalement d'un retour du religieux sous des formes inédites qui peuvent parfois interroger, voire inquiéter. Ainsi apparaissent dans les religions historiques, on le sait bien, ces religions historiques affaiblies, des replis identitaires, nostalgiques d'un passé révolu, des dérives traditionnalistes et intégristes qui rêvent encore de régenter la société, au passage qui fournissent quelques bataillons
oui.
aux partis d'extrême droite. Par ailleurs, prolifèrent de nouveaux mouvements religieux ou spirituels dont les pratiques sectaires portent parfois atteinte à la dignité des personnes, voire même à l'ordre public. Puis il y a aussi, évidemment, l'implantation de l'islam, deuxième religion du pays en France, dont certaines expressions interrogent la laïcité, les signes religieux, les exigences alimentaires ou vestimentaires, des pratiques rituelles, des pratiques, des prescriptions morales, des revendications politiques. Ce sont là autant de thématiques sur lesquelles, on le sait bien, se nouent un certain nombre de débats.
Et justement, la date de naissance symbolique de notre siècle, on le dit, c'est le 11 septembre 2001. Le désir pour certains courants extrémistes religieux de créer un affrontement des civilisations, peut-être une revanche contre le colonialisme, mais en instrumentalisant la religion, chrétienne d'un côté, musulmane de l'autre, alors que dans les deux familles, évidemment, la grande majorité des croyants ne se retrouvent pas dans cette rivalité. Il faut bien nommer les choses, c'est une guerre des religions à laquelle on veut nous faire croire.
Et si on se place à l'échelle du monde, on constate avec effroi les atteintes aux droits humains dans les régimes théocratiques, ceux de tradition musulmane, qui revendiquent d'ailleurs cette forme théocratique, je pense notamment à l'Iran ou à l'Afghanistan. Mais le christianisme n'est pas en reste, quand par exemple les hiérarques de l'église orthodoxe russe légitiment les actes de répression et de guerre du régime autoritaire de leur pays. On peut aussi penser au courant évangélique fondamentaliste des USA ou du Brésil qui voudraient imposer leurs croyances ou leurs convictions éthiques à l'ensemble de la société. Bref, certains pensaient que Dieu avait disparu de l'horizon de l'humanité, vous le disiez en introduction, et pourtant on n'a jamais autant parlé de lui au plan national et international. Souvent il est vrai, de manière négative, voire tragique, quand des attentats terroristes sont commis en son nom. Tous ces éléments exacerbent la défiance à l'égard des religions et rendent plus que jamais nécessaire de s'interroger sur les relations que peuvent entretenir religion et politique.
Alors oui, en effet, vous l'avez dit, aux États-Unis, on a bien vu l'influence de certains milieux évangéliques sur la politique, notamment autour de Donald Trump, et au Brésil aussi. Une parenthèse, milieu évangélique protestant, soit, mais qui n'ont rien à voir avec la majorité des protestants évangéliques en France. Je ferme la parenthèse. Et en France, pays de la laïcité, est-ce que le religieux a une influence encore politique, toute famille confondue ?
Alors, pour entrer dans cette réflexion et les vastes questions que vous posez, je vais essayer de clarifier les termes de cette problématique.
Bon, alors la relation entre religion et politique, ça a toujours existé, non ?
Oui, cette question a en effet traversé les siècles. Si on s'en tient, hein, parce qu'on ne va pas parler de tout, mais si on s'en tient à l'histoire du christianisme, elle va se poser avec acuité dès lors que l'Empire romain va tolérer le christianisme, puis l'imposer comme religion officielle sous les empereurs Constantin et Théodose. Les motivations à cette évolution ne sont pas seulement d'ordre religieux, ni même liés à l'émergence d'une forme de tolérance qui n'existait pas à cette époque. Mais ils sont déjà, pour une part, politiques. Il y avait, en effet des questions autour de l'unité de l'Empire et du coup de la paix de l'Empire. Mmh. Et que c'est aussi dans cette perspective-là, avec, j'irais des, on pourrait dire, des arrière-pensées politiques, que s'est faite cette mise en place du christianisme comme religion officielle. Mais on peut ajouter que la question politique se posait déjà bien avant, sous une autre forme. Allez, au tout début du christianisme primitif, quand les chrétiens confessaient que Christ est le Seigneur, c'était entendu, ça résonnait politiquement aux yeux des autorités de ce temps. Et c'est la raison pour laquelle ils
vont Pourquoi ?
Eh bien parce que dire que Christ est Seigneur, c'est indirectement dire que ce n'est plus César qu'il est. C'est-à-dire que l'empereur est en quelque sorte démis de sa priorité sur le monde. Je vais prendre un autre exemple qui, ceci, est tiré de la tradition que nous connaissons le mieux, vous et moi, hein, celle du protestantisme, cette imbrication entre religion et politique. C'est quand au XVIe siècle, au moment de la Réforme, donc, les princes allemands vont se rallier aux idées nouvelles de Luther. Bien sûr que les motifs sont incontestablement spirituels, théologiques, mais dans le contexte géopolitique de l'époque, les décisions des princes de soutenir les idées de la Réforme ne sont sans doute pas sans arrière-pensée politique. En effet, ce ralliement à la Réforme constitue pour les princes l'occasion de contester l'autorité de l'empereur Charles Quint, ainsi que celle du pape et de l'Église romaine qui le soutenaient. Et on pourrait d'ailleurs ajouter que Luther leur a renvoyé l'ascenseur dans un tragique épisode, celui de la guerre des paysans, où après avoir exhorté les seigneurs à faire preuve d'un certain esprit social, après ne pas avoir été vraiment entendu, et voyant les révoltes sanguinaires des paysans, eh bien, il a pris le parti des seigneurs.
On lui a reproché.
On lui a reproché, à juste titre d'ailleurs. Oui. Hein, mais ne faisons pas d'anachronisme, c'était au XVIe siècle, et aujourd'hui nous sommes dans un autre temps. Mmh. Mais ça ne justifie rien. Mmh.
On peut imaginer aussi, lors des guerres de religion en France, que la crainte de voir les Anglais débarquer dans les ports protestants, comme La Rochelle, pour soutenir la cause des protestants, pouvait légitimement créer une réaction violente de la part du pouvoir en place, non ?
Oui, mais bien entendu, on pourrait multiplier les exemples historiques montrant que politique et religion sont toujours liés l'un à l'autre, qu'on le veuille ou non, de manière plus ou moins évidente, de manière plus ou moins consciente, de manière plus ou moins dangereuse.
Peut-être faudrait-il commencer par donner quelques précisions sur les termes, hein, comme vous l'avez souhaité. Et d'abord, le mot politique.
Oui, ce mot politique, quand on le prononce dans les églises, ça suscite souvent des réactions de rejet. Hein. Lorsque des responsables d'église, lorsque des chrétiens prennent position sur des questions de société, je ne parle même pas de faire de la politique, hein, mais sur des questions de société, pense au Secours catholique, au CCFD, à l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, et à tant d'autres mouvements chrétiens, et bien dans les églises, on dit « Ah, mais ça, c'est de la politique. » Et donc, ça, on n'a pas à s'en occuper, parce que c'est un sujet clivant, qui risque de susciter des controverses, de provoquer des décisions au sein de la communauté, et donc, on ne veut pas en entendre parler, hein. On peut se souvenir de. C'était au moment des essais nucléaires de la France et où Mgr Riobé, évêque d'Orléans, sauf erreur de ma part, avait pris position contre ces essais nucléaires et il s'était adressé une répartie de l'amiral de Joybert qui avait écrit un article dans le Figaro, je crois, où il disait Messieurs de la prêtrise, occupez-vous de vos oignons. C'est-à-dire que
Napoléon avait dit la même chose. Voilà, Bonaparte, il avait dit à vous, à moi la terre et à vous le ciel.
Voilà, c'est ça, oui. Ouais. On verra que Jaurès avait une vision sensiblement et de manière intéressante différente. Hein. En tout cas, le sentiment que la politique, ça ne doit pas entrer dans l'Église d'une manière ou d'une autre. On s'occupe du spirituel, ce qui est éminemment contestable. On le verra, de penser qu'on peut comme ça séparer de manière aussi étanche le spirituel et le politique. Ceci dit, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ces questions. Il ne faut pas non plus les considérer comme illégitimes. Hein. Il faut les prendre au sérieux, sauf à renoncer aussi à sensibiliser les chrétiens sur ces questions sociétales, en montrant que les religions ne peuvent pas éviter la dimension politique de leur témoignage public, ni donc s'en tenir au silence. Parce que l'argument qu'on entend aussi souvent, c'est de dire « il ne faut rien dire ». Sauf que les théories de la communication moderne nous ont appris que ne rien dire, c'est encore dire, quelque chose. Et que se taire, c'est encore dire quelque chose. Il est des silences complices et il est des silences qui en disent long. En même temps, ces réserves invitent à ne pas réduire la dimension à la politique. Cette dimension à la politique au sens des partis, des idéologies partisanes, des programmes, des stratégies pour arriver au pouvoir.
Donc ne pas confondre la politique avec le politique.
Voilà, exactement, exactement. Et c'est là que parfois certains milieux militants au sein de nos églises prennent position dans ce champ sociétal et ils ont raison de le faire, mais ils le font parfois en pensant, en passant du politique à la politique, et que ça, effectivement, il faut être particulièrement attentif à ne pas confondre les deux. En effet, le mot politique vient étymologiquement du grec polis, la cité. Le politique, c'est donc tout ce qui concerne les affaires de la cité, la chose publique, les modalités qui permettent de vivre ensemble, paisiblement, dans une société juste. Le politique, ce sont par conséquent aussi les institutions de l'État, les services publics, les corps intermédiaires qui y contribuent. Même le politique au sens, même si le politique au sens large ne peut se passer de la politique au sens partisan, on ne doit pas les confondre. Mais c'est vrai que la politique, il faut aussi, on le verra plus loin, en saluer la noblesse. Hein. Sauf que, à mon avis, les chrétiens et les églises, et les religions de manière générale, peuvent prendre position dans le politique, s'y impliquer, mais sans faire forcément de la politique au sens partisan du terme.
Alors nous parlerons plus du politique que de la politique.
Voilà, d'une manière générale, quand dans nos échanges, en tout cas moi, quand je parlerai de politique, ce sera le politique que j'envisagerai.
Une pause et nous nous retrouvons. Thank you. Vous êtes sur Radio Alliance Plus, vous écoutez Théologie en Liberté, et nous sommes en entretien, Joël Baumann et Michel Bertrand, sur les liens, la relation entre religion et politique. Bon, nous avons clarifié le mot « politique » tel que nous voulons l'utiliser, et qu'en est-il du mot « religion » ?
Alors, ce mot de religion désigne des réalités fort diverses, qui sont d'ailleurs parfois assez éloignées de celles qu'il recouvre habituellement. Quand on dit religion, ben on pense aux grandes religions que l'on connaît. Or, la religiosité, le fait religieux, déborde largement le sens strict des religions. L'étymologie latine du mot religion est assez controversée, on ne va pas rentrer dans les détails, mais certains pensent que ce mot vient du verbe relire, du verbe latin qui veut dire relire, et pour d'autres d'un autre verbe latin qui signifie relier. Mais au fond, relire et relier se conjuguent dans le religieux, dans la religion. Car la religion relie à Dieu, elle relie au sacré, elle relie à une communauté. Et pour cela, il faut sans cesse également relire les textes et répéter des rituels reçus d'une tradition.
D'accord, relire dans le sens de répéter.
Oui, mais aussi, bien sûr, d'interpréter. C'est-à-dire de relire, mais en actualisant. Ce n'est pas forcément une pure répétition. Au contraire, en tout cas, dans le christianisme, ce n'est pas une pure répétition. Comprise ainsi, on voit que les expressions religieuses peuvent dépasser les religions. Et on voit bien qu'elles peuvent s'exprimer dans des domaines considérés comme profanes.
Oui, on a souvent parlé de la religion du sport.
Oui, bien sûr. Alors là, il suffirait de regarder le vocabulaire des journalistes sportifs et des commentateurs pour se rendre compte qu'il est bourré d'allusions religieuses. Avec la Coupe du Monde de rugby, là, nous en avons eu des exemples. Quand on va marquer l'essai, on arrive en terre promise. Au football, quand un tir n'est pas arrêté par le gardien, on dit qu'il a été crucifié. Voilà, il y a tout. On pourrait multiplier les exemples. Qui montre les ressemblances entre des manifestations religieuses au sens strict et puis ce qui se passe dans le sport. Et je ne parle pas de tout ce qui existe à côté. Les rituels, ouais. Les slogans, les chants, les tenues, les uniformes, le rôle essentiel de la communion, de l'émotion dans le cadre du sport. Tous ces signes, toutes ces paroles qui nous rappellent qu'il y a évidemment du religieux dans le sport. Et on en a eu également une illustration absolument manifeste lors de la venue du pape à Marseille.
Ouais.
Hein, il n'a pas été reçu n'importe où. Il a tenu sa messe dans le stade Vélodrome. Et les supporters de football lui ont rendu hommage avec les mêmes modalités, les mêmes moyens que ceux qu'ils utilisent pour célébrer leurs idoles, c'est-à-dire en étendant sur les tribunes ce qu'ils appellent un tifo, c'est-à-dire une immense effigie du pape. C'était tout à fait sympathique, mais c'était très intéressant de voir que la religion se tenait d'ailleurs dans un temple du sport.
Quoi. Un temple du sport.
Mais ce qui est intéressant, peut-être davantage encore pour notre propre propos, c'est de voir que souvent le politique prend les formes de la religion. D'ailleurs, Jean Bobéro, qui est très sociologue historien, qui a beaucoup étudié ces questions de laïcité et de religion, parle d'une religion civile, hein, et pourtant dans une société qui se prétend laïque.
Oui, on trouve même le même vocabulaire, le baptême républicain. Mais
absolument, oui. C'en est là une des expressions symboliques, bien sûr, les plus manifestes, mais ce sont aussi, au plan sociétal, les grandes liturgies républicaines. Le défilé du 14 juillet, les cérémonies du Panthéon, le rituel de la flamme à l'Arc de Triomphe, les hommages solennels aux Invalides, les commémorations multiples, le tout porté par des mécanismes de sacralisation. Je me souviens d'une cérémonie qui avait eu lieu, présidée par le président Hollande, après les attentats du Bataclan. Il vous interviewait un des rescapés du Bataclan et qui avait dit pourquoi c'était si important que ce moment ait eu lieu et avait-il ajouté qu'il ait pu serrer la main du président de la République. Il y a là une sorte de sacralisation du pouvoir, quoi. Mais de manière plus, je dirais, à l'échelle de l'histoire, hein, le nazisme, le communisme, d'une manière générale, toutes les dictatures ou régimes autoritaires, on pense aussi à certains pays d'Asie, hein, la Corée du Nord, la Chine, ont toujours bien compris le bénéfice qu'ils pouvaient tirer de ces funestes cultes et célébrations publiques, à savoir témoigner au fond qu'il y a des réalités sacrées, donc des vérités indiscutables et intouchables, garanties par l'ordre établi et par l'autorité de ce régime.
Mmh. Et créer une communion.
Absolument.
Une émotion collective.
Absolument. Absolument. Mmh. Oui, comme dans le sport, on l'a dit, souvent l'émotionnel envahissant peut aussi empêcher de penser. Hein. Mmh. On l'a vu tragiquement il y a quelques jours avec le caillassage d'une équipe de football à Marseille. Quoi. Mmh. C'est ce qui montre qu'à un moment, quand l'émotion elle devient irrationnelle et elle devient tragique. Quoi. Mmh. Elle devient tragique. Quand le politique prend ainsi ses formes religieuses, en effet, il court le risque de tomber dans les mêmes travers que les religions, c'est-à-dire d'absolutiser leurs convictions et devenir du coup facteur d'intolérance et d'exclusion.
C'est ce que vous venez de dire avec ce caillassage d'un bus, cet entraîneur blessé.
Oui,
c'est vraiment une religion, là, extrémiste.
Tout à fait. Une fanatisation.
Du fanatisme.
Une fanatisation. On ne pense plus. On est... Mm. Je rappelle d'ailleurs au passage que le mot absolu vient du latin absolus, à partir de soi seul. Mm. C'est-à-dire qu'il ne fait place à rien d'autre que soi-même, que ce qu'on prétend dire et faire.
On pourrait aussi évoquer une religion de substitution actuellement qui survalorise la nature, le monde animal. Et là, on marche un peu sur des œufs. Hein. Il y a dans des combats justes des extrémistes, à la fois intransigeantes également, dans le domaine de l'écologie, de la lutte pour la bonne lutte pour l'écologie. Il y a aussi des extrémistes là, ce qui prouve que toute valeur, même la plus légitime, peut être retournée en sectarisme la plus intolérante.
Oui. Mmh. Je me souviens d'une. D'une leçon de rentrée à la faculté de théologie de Montpellier où un chercheur de Sciences Po Aix avait fait une leçon d'ouverture qui s'appelait enfin, en substance c'était la nature serait-elle devenue surnaturelle.
Ah, voilà. Et tout ça nous amène à se poser une question, celle de la responsabilité des religions dans tout cela. Ne sont-elles pas toujours facteurs d'intolérance? Bien, c'est une question que l'on se garde pour une prochaine émission, Michel Bertrand, si vous êtes d'accord.
D'accord.
Et nous nous retrouverons donc bientôt. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur radioalliance.fr. À bientôt donc. Au revoir.
Au revoir.